Commencer, comme vous le savez, on désire vous présenter nos missionnaires. Bon, on a fait venir un là, d'un pays éloigné, des confins de la terre, de Rivière-du-Loup, puis il va nous faire la présentation lui-même. Ça va être bien, hein? Donc, on va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, merci pour cette belle journée qui commence. On sent, on a des avant-goûts de printemps, Seigneur. On aimerait que ça reste comme ça. Très agréable. Merci, Seigneur, pour l'Église qui est en train de se rassembler, se diriger dans les classes. Et merci pour Hugo et Lynn qui sont avec nous ce matin. On te demande, Seigneur, de bénir leur séjour ici avec nous, que ça puisse attirer notre attention sur l'œuvre que tu es en train de faire à Rivière-du-Loup, puis nous aider à avoir toujours vraiment une vision missionnaire, Seigneur, pour le Québec, pour le monde. On te prie, Père, de nous faire grandir dans notre compréhension puis notre appréciation, Seigneur, de ta passion à toi pour la mission. C'est vraiment là que ton cœur bat, Seigneur, jusqu'à ce que des hommes et des femmes de toutes les nations de la terre célèbrent ta gloire et t'adorent, Seigneur. Alors, on te demande de nous bénir ensemble ce matin dans ce cours. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Donc, je vais laisser la parole à Hugo. Il va prendre un 10 minutes. Puis j'ai demandé à Hugo de présenter l'œuvre là-bas comme si vous ne la connaissiez pas. D'accord? Donc, pas juste donner les dernières nouvelles. Ça, il va avoir un petit 5 minutes tout à l'heure pendant le service. Merci, Hugo.
Hola. Me llamo Hugo. Je vengo de Rio del Lobo. Il y a des Espagnols ici? Alors, des fois, on s'imagine que les missionnaires sont dans un autre pays. C'est vrai? T'sais, on s'imagine c'est exotique. Là, on pense à l'Afrique noire. Où c'est là qu'on envoie des missionnaires. Mais probablement que vous le savez, là, comme Québécois, oups, je pars mon petit minuteur. Alors, le Québec est un champ missionnaire important. Je vais m'avancer comme ça. Le Québec est un champ missionnaire important. On est dans les. Quand on regarde les pourcentages, quand il y a des statistiques au niveau mondial des pays les moins atteints avec l'Évangile, le Québec fait partie des taux le plus bas. Alors, Lynn et moi, nous sommes missionnaires avec nos enfants. On est partis en 2005 pour Rivière-du-Loup. Je peux-tu rapprocher, Yann, ça un petit peu? Okay. En fait, pour ceux qui connaissaient pas Lynn et moi-même, on a été 14 ans ici. Ben, Lynn, un peu moins, là. On s'est mariés, puis elle a joint l'Église ici, mais moi, j'ai été 14 ans ici à l'Église de l'Espoir. On a commencé dans la petite chapelle sur la rue Lafayette. Après ça, quand un an ou deux après, on a emménagé sur la rue Lassalle. Puis, quand je suis parti, on était encore sur la rue Lassalle. Puis, il y avait des démarches. On avait entamé les démarches pour trouver un nouveau bâtiment. Mais lorsqu'on est parti, on était encore sur la rue Lassalle. Puis, la vision que le Seigneur a mise sur notre cœur pour aller à Rivière-du-Loup. Puis, franchement, pour moi, les régions, c'était quelque chose où on allait peut-être à la retraite. Pour aller s'acheter une petite maison un peu moins chère sur le bord d'une rivière, prendre la vie tranquille, puis aider une petite église qui avait besoin de ressources. Puis moi, je voyais les régions peut-être comme ça, puis je dis bien peut-être. Puis durant l'été 2004, le Seigneur a touché nos cœurs, Lynn et moi. J'étais professeur de mathématiques, puis l'été, vous savez, là, on travaille pas beaucoup les professeurs, puis on a beaucoup de vacances. Donc, on faisait une grande tournée. Mes parents, à ce moment-là, étaient près de Chicoutimi. On avait des amis à la Malbaie. On avait d'autres amis dans le Bas-Saint-Laurent, près de Rivière-du-Loup, à Saint-Modeste. Puis, fait qu'on faisait une tournée comme ça pendant plusieurs semaines. Puis, on finissait ça à l'île aux coudes avec Yannick, Esther, dans un beau petit chalet. Puis, Nathalie, je sais pas si c'était là cet été-là, mais puis, c'est drôle, je me souviens, là, assis sur la grève avec le galet, là, les petites roches. Là. Puis là, c'est comme si dans mon cœur, j'ai dit, je commence à avoir à cœur les régions. Puis là, je n'osais pas trop en parler à Aline parce que je me suis dit, y aller en région, tu sais, quitter les centres urbains pour aller en région. Puis finalement, quand j'ose en parler à Aline, je vois que son cœur aussi est préparé par le Seigneur pour ça. Alors, on a eu à cœur les régions, puis déjà, on avait un désir de démarrer une église à Rivière-du-Loup, une église de notre mouvement. Il y avait déjà 3 églises, mais dans notre compréhension à l'époque, des petites églises qui battaient de l'aile un peu. Et Rivière-du-Loup, peut-être vous connaissez la géographie, mais c'est environ là, 175 kilomètres après Québec, là, passé Lévis. Puis, on est un peu au carrefour, là, la transcanadienne, comme on dit, là, l'autoroute 20. On peut aller vers le sud-est, vers le Nouveau-Brunswick, les Maritimes, ou on continue sur la 20 qui devient la 132, puis là, on fait le tour de la péninsule gaspésienne. Alors, on était comme au carrefour. On trouvait que Rivière-du-Loup, c'est une ville stratégique pour implanter une église, pour avoir un certain accès au grand centre urbain, Québec, puis plus loin, Montréal, pas à ce moment-là, si on est à Rivière-du-Loup, mais aussi pour avoir un impact dans l'est du Québec, puis on, dans nos rêves, le nord-est, nord-ouest du Nouveau-Brunswick, Edmundston. Puis... Alors ça, c'est la vision que le Seigneur a mis sur nos cœurs en 2004-2005, puis l'Église, on a passé un beau processus d'évaluation, puis de réflexion à savoir si on était prêt à partir comme missionnaire de l'Église de l'Espoir ici, puis si le Seigneur nous appelait bien à Rivière-du-Loup. On a eu un paquet de belles confirmations, c'est fantastique. Quand Dieu a des plans pour nous, ben il nous éclaire puis il nous guide. Puis notre désir en allant à Rivière-du-Loup, c'était justement d'implanter une église, de commencer une église qui allait être un peu comme une église de l'espoir. Puis on a d'autres églises aussi dans notre mouvement, peut-être que vous connaissez, Grambay. Il y a le frère de l'autre au fond là-bas. qui vient de Grambay, Jean-Paul, et le frère de Jean-Pierre. Jean-Pierre est à Grambay. L'église de Rosemont, l'église de Terrebonne-Mascouche avec Louis Bourque longtemps, maintenant avec Mathieu Giguère. C'est des églises qui ont formé beaucoup d'ouvriers puis qui ont implanté des églises ou qui ont envoyé des ouvriers. Donc, nous, notre désir, c'était d'aller en région à 500 km environ de Montréal puis de devenir ce que j'appelais déjà à l'époque, là, tu sais, une église sur le modèle de l'église d'Antioche dans Acte 11, Acte 13. Une église qui fait un beau travail d'évangélisation dans sa région, mais qui a un certain nombre de ressources internes qui permettent de former des ouvriers puis de les envoyer pour faire une œuvre missionnaire. Donc, le rêve qu'on avait puis qu'on a encore aujourd'hui, c'était d'implanter une église qui allait devenir une église qu'on appelle maintenant de façon plus officielle dans notre mouvement un centre Antioche, qui va former des ouvriers puis qui va en envoyer pour combler les besoins des églises dans la région. Je ne sais pas si Miguel a imprimé mes feuilles, sais-tu? OK. Vous les avez en plus? Hey, c'est super ça, merci. Là, vous prendrez le temps de lire un petit peu si vous voulez. Là, ça va vous prendre peut-être 5 minutes, lire ça 10 minutes si vous voulez avoir un petit peu d'attention, mais pas maintenant. Mais c'est un très, très grand territoire, ce qu'on appelle l'Est du Québec, près de 280 000 km². Population qui est proche de 400 000 habitants. Tu sais, des fois, on pense au petit village de 500, mais si on prend tout ce grand territoire-là, c'est près de 400 000 habitants. Bon, lendemain, un demi-million, mais ça ne va pas nécessairement en augmentant. Puis, il y a 18 MRC. Les régions sont divisées en municipalités régionales de comté. 18 MRC, puis il y a 10 ou 11 MRC qui n'ont pas d'église de notre mouvement, puis plusieurs n'ont aucune église évangélique. Alors, ceux qui connaissent les régions, la ville-centre d'une MRC, c'est là qu'il y a l'hôpital, qu'il y a l'école secondaire, un cégep des fois, très rarement l'université comme Marie-Mouski, par exemple. Et il y a plusieurs MRC, là il y a 5, 10, 15, 20 villages qui sont rattachés à la ville-centre, puis les gens vont là pour avoir les services. Puis plusieurs MRC n'ont aucune église évangélique, puis 10 ou 11 d'entre elles n'ont aucune église de notre mouvement d'église. Alors, le besoin est immense, puis ça, c'est le rêve qu'on avait en 2000. 3 minutes? Je vais le mettre comme ça, alors vous allez être témoin. Est-ce que vous le voyez? OK, il me reste 3 minutes. Vous pourrez tous me faire des gros yeux quand ça va arriver à zéro. Juste vous raconter une mini-métaphore en quelques secondes. Quand nous, on est parti, je veux dire, quand je suis parti à Rivière-du-Loup, je suis parti comme un défricheur, avec une mentalité de colon, tu sais, peut-être vous me trouvez colon, mais vous comprenez? Tu sais, un colonisateur, il arrive, puis c'est la scie, il faut qu'il coupe les arbres, il faut qu'il dessouche, il faut qu'il bâtisse sa cabane en bois rond, il faut qu'il commence à préparer la terre, qu'il ensemence, qu'il attende, qu'il retravaille la terre, qu'il ensemence, qu'il attende, puis à un moment donné, la moisson arrive. Alors moi, je suis parti avec cette mentalité-là, puis ça, c'est ce qu'on appelle la phase d'implantation. Et j'ai eu beaucoup de plaisir là-dedans. Moi, j'aime les défis, ça m'excite, des territoires à défricher, puis à développer. Je dirais que de 2005 à 2012, l'Église de la Rivière était dans cette phase d'implantation. Puis de 2012 à 2016, il y a une transition qui devait se faire. Puis moi, ça m'a pris 4 ans, je ne suis pas tellement vite, ça m'a pris 4 ans à réaliser à quel point il fallait comme que je commence à changer mon, mon mindset, comme on dit bien en français, pour devenir une église qui se multiplie, qui multiplie des leaders. Alors, on évangélisait beaucoup, puis on faisait tout ça, mais on avait, faire un petit peu comme les choses différemment dans l'église pour passer dans cette deuxième phase. Puis c'est fantastique, je l'ai compris. Puis là, on est en train de se mettre en mode multiplication en mettant des infrastructures progressivement. Il y a un passage que Jésus utilise dans le sermon sur la montagne, c'est-à-dire une parole de Jésus dans Matthieu 5, tournez pas, mais où Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Puis il dit que votre lumière luise afin que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Puis ça a été percutant pour moi au niveau théologique, parce que pour moi, la mission de l'Église, c'était de prêcher, c'était vocal. Et là, Jésus est en train de dire, la mission de l'Église, c'est aussi de briller par notre bonne manière de vivre, notre bonne façon d'agir, puis notre façon d'impacter la communauté. L'an passé, on a démarré un magasin communautaire SEM, peut-être que vous connaissez ce qui se passe à Saint-Hyacinthe, un mini-village des valeurs à Rivière-du-Loup. Donc, on récupère du matériel usagé, on le revend. Puis, c'est un OSBL, c'est un organisme sans but lucratif. Et normalement, le but du magasin, c'est de financer une banque alimentaire. Et vendredi, il y a deux jours, on a eu notre première distribution alimentaire. Ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, vous avez vu mes photos, là. Je suis tout excité. On a nourri 59 foyers, familles, adresses, peu importe comment on veut l'appeler, 59 personnes qui sont venues chercher des paniers. Puis, on est vraiment en train de rayonner dans la ville. Il y a 4-5 ans, les gens disaient, « Vous êtes où, vous autres, l'église de la rivière? » Puis là, je me rappelais la parole de Jésus qui disait, « On n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de la table. » On la met au point le plus élevé dans la pièce. Puis j'ai dit, moi, je peux plus tolérer Hugo Étier comme pasteur. Je peux plus tolérer que les gens disent, vous êtes qui, l'Église de la Rivière? Vous êtes où, vous autres? Je peux plus tolérer ça. On est la lumière du monde. Il faut que les gens nous voient puis qu'on puisse briller. 5 secondes, 5 requêtes de prière. Alors, merci pour votre soutien financier précieux depuis 2005. Si vous voulez prier, s'il vous plaît, pour que l'Église puisse grandir, qu'on devienne un centre régional Antioche. Je sais pas, j'ai mis les requêtes de prière. Je pense que oui. Vous pouvez venir comme missionnaire. J'ai besoin d'un assistant pasteur, Yannick. On a besoin d'un leader jeunesse. On a besoin des leaders de groupe en mission aussi. Et c'est tout. Merci beaucoup.
Merci, Hugo. Si vous voulez prier, là, je suis sur mon temps, fait que je peux le prendre. Un des défis énormes dans les petites églises de région, je suis beaucoup plus sensibilisé à ça maintenant avec Hugo qui est là-bas, c'est d'avoir des chrétiens matures. Dans le fond, je veux dire, conduire des âmes au Seigneur là-bas, il y a plein d'âmes à conduire au Seigneur. Maintenant, quand tu conduis quelqu'un au Seigneur, ça peut prendre, vous savez, les Québécois sont poqués. Fait que ça peut prendre 5, 10 ans, 15 ans avant que tu aies un leader mature. Et donc ça, c'est un défi énorme. Et peut-être que Dieu vous appelle, vous, à partir en région, à aller à Rivière-du-Loup, vous installer. Si vous avez sur votre cœur, vous aspirez à l'ancienne, c'est le plus gros défi pour l'Église là-bas. À chaque fois qu'Hugo évolue avec quelqu'un, puis qu'il arrive à l'endroit où il va pouvoir établir cette personne-là, ou même qu'il l'a fait, pour des raisons quelconques, il est obligé de revenir en arrière. Et on l'appuie de l'extérieur. Alors moi, je suis impliqué personnellement comme un des conseillers très, très proche. Dominique Guichard, qui est à l'église de Rosemont, est là comme un des conseillers proches. Puis le comité d'implantation a carrément demandé à Hugo dernièrement, de dire, ben là, on pense qu'il faudrait carrément que tu fasses nommer des anciens qui sont extérieurs, mais qui vont appuyer comme anciens dans l'église. Un peu comme lorsqu'on voit Paul qui envoie ses boys puis qui s'en vont faire un travail d'ancienat. On fait ça des fois dans l'association pour aider des petites églises. Fait que un gars comme moi pourrait se retrouver ancien ici puis là-bas. Où on n'est pas dans tous les dossiers, mais on se tient le plus à jour, un peu comme Alexandre fait avec nous, en étant à Louisville, puis en assistant à toutes nos réunions du Conseil des anciens. Donc, peut-être que Dieu vous appelle à aller là-bas. Et pour les femmes matures, le besoin est énorme aussi, fait que considérez ça. On va aller dans nos notes. On continue, on termine le premier chapitre du livre de John Piper. Alors, si vous le lisez avec moi, peut-être vous aurez remarqué, c'est pas toujours fluide, c'est pas toujours facile à suivre. La force de John Piper, c'est vraiment d'aider l'Église à faire des liens qui ont déjà été faits dans l'histoire. Souvent, John Piper va citer des Jonathan Edwards ou des John Owen. Donc, c'est pas qu'il découvre des choses qui n'ont jamais été découvertes dans les Écritures, mais il réussit à nous conduire à faire des associations entre des affirmations des Écritures, un endroit puis un autre, puis Il rouvre des nouveaux champs, des nouvelles perspectives. Et c'est ça qu'on veut faire avec le premier chapitre. Alors, juste avant que j'oublie, si vous n'êtes pas sur la liste d'envoi, si vous n'avez pas reçu les notes hier, je crois, avant-hier, c'est que vous n'êtes pas sur la liste d'envoi, allez voir Annie Dagenet pour ça, ou écrivez-lui. Si vous désirez avoir le livre, vous allez l'avoir aussi pour l'acheter. Et si vous dites « je suis sur la liste d'envoi, mais je ne l'ai pas reçu », bien vérifiez votre compte de pourriel, de spam. Ça arrive des fois qu'ils sont directement envoyés là. D'accord? Donc, cette semaine, on termine le chapitre 1. Votre lecture à faire, je le dis tout de suite pour ne pas l'oublier, votre lecture à faire pour la semaine prochaine va être le chapitre 2, sur lequel on devrait passer deux semaines aussi. D'accord? J'ai repris un petit élément des notes de la semaine dernière. Comment l'exaltation de soi peut-elle être de l'amour? On était devant un dilemme, un défi. C'est de comprendre, essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu est dans une quête aussi grande de l'exaltation de sa personne, puis en quoi est-ce que derrière ça, il n'y aurait pas un péché comme il y en aurait un chez nous. Si moi je disais, bien voici, je dois être la personne la plus exaltée dans l'Église, c'est moi la plus grande. Ça ne marche pas, un leader c'est un serviteur. C'est ce qu'on a appris, c'est Christ qui nous l'a enseigné. Alors, deux affirmations. Mais en fait, un verset avant, 1 Corinthiens 13, 5, qui peut-être justement souligne la difficulté qu'on peut avoir avec cette idée-là que Dieu est passionné plus que toute autre chose par sa propre gloire. Voici le genre de conflit que ça peut susciter dans notre esprit. 1 Corinthiens 13, 5, « L'amour ne cherche point son intérêt. » Alors, on pose la question, comment l'exaltation de soi peut-elle être de l'amour en même temps? Puis comment est-ce que ça vient se réconcilier dans la personne de Dieu? Maintenant, si vous allez dans les deux déclarations, puis c'est ça qu'on va développer un peu ce matin, au milieu de la page 2, Paul ne considère pas que toutes les façons de chercher son intérêt sont mauvaises. J'avais juste commencé à pointer dimanche dernier des réponses dans ce sens-là. Certaines le sont, d'autres ne le sont pas. Et deuxièmement, Dieu est unique et l'affirmation de Paul ne s'applique pas à lui de la même manière qu'à nous. Alors, on commence par le premier élément. Comment est-ce que chercher son propre intérêt pourrait être quelque chose de bon? Puis dans le fond, je pense que sur les premiers arguments, on va tous être d'accord assez facilement. C'est juste qu'on n'y pense pas naturellement. Ça ne nous vient pas à l'esprit naturellement. L'apôtre Paul dit dans Actes 20, 35, alors qu'il est en train d'enseigner les anciens d'Éphèse, d'accord? Voici ce qu'il leur dit. « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » J'écris un petit peu plus bas, et Paul encourage les chrétiens à donner parce que cela nous apporte plus de bonheur que d'agir autrement. Ainsi, la vertu ou ce qui est moralement supérieur est associé au bonheur personnel et à son propre intérêt. Nous sommes encouragés à considérer notre propre intérêt dans l'acte de donner pour la joie qu'il nous procure. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, Paul est en train de dire, la vertu qui est celle d'être généreux, de ne pas être centré sur moi-même, peut contribuer au fait, dans le fond, de chercher mon propre bonheur. C'est pas deux choses qui sont en contradiction. La contradiction se trouve ailleurs. Puis c'est quelque chose qu'on doit saisir, qu'on doit comprendre. Si on veut conduire des gens dans l'adoration, il faut que ma pensée derrière constante soit « je veux les conduire vers leur bonheur ». Eux, lorsque je vais leur dire « je veux te conduire à devenir un adorateur de Dieu », pour eux, tout ce qu'ils voient, c'est les renoncements. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je veux les conduire à renoncer à tout ce qui nuit à leur bonheur. Parce que leur bonheur se trouve dans l'exaltation de Dieu. Et c'est ça que Piper développe, d'accord? Donc, il n'y a pas de conflit entre les deux. C'est sûr que ça va s'exprimer de différentes manières. Il va y avoir un renoncement de moi. Ça veut dire que comme chrétien, s'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, comme chrétien, grâce à l'Évangile, c'est Jésus qui nous l'a montré, il nous a donné l'exemple, on puise cette inspiration-là en lui, puis la force en lui. Grâce à l'Évangile, je peux vraiment apprendre qu'il y a une joie plus grande à renoncer à moi qu'à garder les choses pour moi. Puis c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est drôle quand tu entends cet écho-là des fois dans le monde, parce que si vous êtes attentif, vous allez l'entendre, cette pensée-là. Vous allez l'entendre en général chez les gens qui sont rendus, ils sont installés, ils ont l'argent, puis là, tout d'un coup, ils disent « OK, là, on va commencer à être généreux. » J'écoutais des... je pense que je l'ai mentionné il y a quelques mois, mais j'écoutais un homme, je pense que sa valeur personnelle est évaluée à 20 millions de dollars. Puis voici comment lui il résumait. Il dit « Dans le fond, ce que tu dois faire, c'est que tu dois passer la première phase de ta vie active à sécuriser ta situation. Puis quand tu as fait ta fortune personnelle, là, tu commences à te consacrer à servir les autres. Parce que rendu à un certain seuil, il n'y a plus de bonheur là-dedans. De toute façon, tu es satisfait. » Et on se rapproche de l'idée de Dieu, mais l'idée de Christ va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. J'ai pas besoin d'attendre d'être établi puis d'avoir sécurisé ma fortune à moi puis tout ça avant de commencer à être un serviteur. Il y a un véritable bonheur plus grand à donner qu'à recevoir. Et ça me demande à moi comme chrétien d'être capable de l'intégrer, ça. On commence une nouvelle série tout à l'heure sur la culture que l'Évangile doit produire dans l'Église, qui est vraiment une culture contre-culture, qui est contre-culturelle avec ce qu'il y a autour de nous. Et ce que ça nous demande à nous, c'est de croire ça profondément, cette parole-là. Qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puis de le croire pas parce que c'est un mantra, mais de le croire parce qu'on est vraiment imprégné de l'Évangile, de la pensée de Christ, du modèle de Christ, puis de la pensée de Christ, puis ça devient effectivement une expérience. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsqu'on va au haut de la page 3, nous devons donc en comprendre qu'il y a de bonnes manières de chercher le bonheur ou son intérêt, et il y en a de mauvaises. J'avais mentionné rapidement la semaine dernière, lorsque Dieu nous appelle au salut, il nous appelle à sortir du malheur pour rentrer dans le bonheur. Puis lorsqu'on répond à l'Évangile, c'est dans une quête très égoïste de bonheur qu'on le fait. J'ai pas rencontré à date de personne qui sincèrement me disait « Regarde Yannick, moi c'était vraiment par abnégation totale que j'ai accepté l'Évangile. » C'est par intérêt personnel, on veut fuir la douleur, on veut soit c'est l'avenir, soit c'est le présent dans notre vie, soit le passé, on veut fuir quelque chose puis on veut rentrer dans le bonheur. Et donc, c'est pas mal en soi, au contraire. Mais une fois que je rentre là, je découvre que mon bonheur se trouve plus à être centré sur fuir mon malheur, mais plutôt dans la quête de Dieu. Mon bonheur se trouve en me tournant vers Dieu. Fait que Jonathan Edwards écrit ceci au haut de la page 3. L'intensité, je vais commencer un petit peu plus tôt. Paul critique non pas l'intensité de l'amour que l'on peut avoir pour son propre bonheur, mais le fait de ne pas placer son bonheur au bon endroit et d'imposer une limite et une restriction à son amour. Bien qu'aimant leur propre bonheur, certains ne placent pas ce bonheur dans leur intérêt personnel restreint, ni dans l'intérêt qui se limite à leur propre personne, mais plutôt dans le bien commun, dans ce qui constitue le bien d'autrui, ou dans le bien qui peut être éprouvé chez l'autre et par l'autre. Et quand il est dit que l'amour ne cherche point son propre intérêt, il faut l'entendre dans le sens de son propre intérêt particulier, d'un intérêt qui se limite à lui-même, parce qu'en définitive, les Écritures nous disent que si je cherche l'intérêt des autres, moi je vais trouver mon intérêt dans ça, je vais trouver mon bonheur, parce que je vais être à la ressemblance de Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul et toute la parole de Dieu nous encouragent à chercher notre intérêt en nous enseignant que notre bonheur et notre intérêt se trouvent dans le bonheur partagé, dans le bonheur des autres. Et donc, ce que Dieu fait, lorsque Dieu nous invite à nous tourner vers lui, on va le développer un petit peu plus loin, il nous invite à aller à la source où il y a le plus de bonheur. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, ça serait ridicule pour Dieu de dire « Je vois Nathalie qui est là. Nathalie est super fine. » En fait, il y en a deux, fait que je vous laisse deviner laquelle. Fait que je vois Nathalie qui est là, super gentille, personnalité agréable. Puis là, je vous dis « Regardez les amis, Dieu c'est le fun, il est au ciel, c'est un esprit. Allez chercher votre bonheur avec cette fille-là. Elle est tellement fine, elle est tellement le fun. Écoute, elle va combler tous vos désirs. » Non, c'est vers Dieu que je vais le faire. Donc, ce serait vraiment... aberrant pour Dieu, une contradiction profonde pour Dieu de nous amener à nous tourner vers quelqu'un d'autre que lui-même. Alors, quel était le deuxième élément qu'on soulevait? Je vous ramène juste à ma deuxième... je m'excuse. Ici. Dieu est unique et l'affirmation de Paul ne s'applique pas à lui-même de la même manière qu'à nous. Et dans le fond, c'est quoi le péché originel? C'est quoi la faute de l'homme? C'est sa femme? Écoutez sa femme. Ben, dans un sens, oui, c'est qu'il a manqué de leadership. Oui, oui. Je le formulerais autrement. Je le formulerais comme il a vraiment manqué de leadership, le bonhomme. Ça a l'air que c'est ça. C'est vraiment intéressant parce que Dieu l'a appelé lui le premier dans le bureau du directeur. Là. Fait que je pense qu'il a manqué de leadership. Quelle est la faute de l'homme et la femme? Chercher son bonheur ailleurs qu'en Dieu en prétendant être Dieu. D'accord? Le mensonge que Satan est venu leur dire, je ne sais pas si vous lisiez les vieilles bandes dessinées « Is No Good », qui voulait être calife à la place du calife. Ben c'est ça. C'est l'histoire de Satan, puis c'est l'histoire d'Adam et Ève, puis c'est l'histoire de l'humanité, puis c'est l'histoire de l'humanisme. C'est toujours cette quête-là de dire « Moi et ma raison, nous sommes le centre de l'univers. Tout ce que j'appréhende, que j'aime, que j'apprécie, qui est raisonnable à mes yeux, c'est ça qui va dicter ma vie. » Bien, c'est la pensée de Satan, puis c'est la pensée d'Adam et Ève lorsqu'ils ont rejeté Dieu, tout simplement dans le jardin. Et donc, ils ont eu la prétention d'être comme Dieu. Mais on ne sera jamais comme Dieu. On n'arrivera jamais à être Dieu. C'est quelque chose qui nous est impossible. Dieu n'allait pas créer Dieu qui allait être l'égal de Dieu. Dieu, par définition, est l'absolue perfection. Il n'y a personne d'autre qui peut venir marcher dans ces chaussures-là. Absolument personne. Maintenant, Dieu nous a fait une grâce incroyable, une bénédiction supérieure même à celle des anges. Parce qu'il a créé l'être humain de peu inférieur à Dieu, il nous a créé à son image. Et donc, il y a plein de choses en nous qui ressemblent vraiment à la personne de Dieu. Il y a des gestes, des actes, des pensées desquels on est capable qui ressemblent vraiment à la personne de Dieu. Puis je pense que Dieu, volontairement, lorsqu'il dit qu'il nous a créés à son image, garde ça assez flou. On arrive à donner une espèce de définition, mais bien honnêtement, dans tout ce que j'ai lu en théologie, j'ai jamais trouvé quelque chose qui me semblait vraiment comme arrêter la discussion. En quoi est-ce qu'on a été créé à l'image de Dieu? Et pour nous répondre à cette question-là, là, je fais une petite parenthèse, la manière la plus simple de répondre à cette question-là, c'est devenir comme Christ. Parce que Christ est l'homme parfait, l'homme qui n'a pas chuté. Et donc, devenir comme Christ, c'est vraiment être à l'image de Dieu. C'est quoi en nous qui l'est aujourd'hui? On a des idées de ça. Dieu va aller jusqu'à dire, l'apôtre Paul va dire, « Soyez les imitateurs de Dieu. » Mais pas dans le sens « Essayez de supplanter Dieu. » D'accord? Alors, c'est quoi la pensée humaniste? C'est quoi la pensée du diable? C'était « Soyez les imitateurs de Dieu. » Essayez de prendre son trône. Essayez de vous asseoir sur son trône. Mais jamais on va être l'égal de Dieu. Jamais on va être son égal, même si on va poursuivre toute notre vie de devenir ses imitateurs. Fait que John Piper résume ça comme ceci au bas de la page 3. Le principe unificateur n'est pas « n'exalte pas ta propre gloire, mais exalte la gloire de ce qui est infiniment glorieux. » C'est ce qui fait, je crois, que lorsqu'on présente l'Évangile à des non-chrétiens, dans un contexte très ouvert, où on a une vraie discussion, souvent, ils vont nous dire, ça fait tellement de sens, c'est tellement raisonnable ce que tu me racontes comme histoire. Quand ils ont pris le temps de comprendre qu'on est tous des pécheurs, puis on fait toutes des conneries, puis on arrive là, puis là, on leur parle d'un Dieu qui a créé, puis qui, vous voyez que le monde ne marche pas, puis qui est venu, puis qui a fait grâce, qui s'est donné lui-même, puis qui nous sauve par grâce. Donc, on n'a pas à être parfait pour être sauvé, on doit être parfait en Christ seulement, mais pas par nous-mêmes. On termine cette conversation-là avec eux, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, ça vous est sûrement arrivé, les gens vont vous dire, ça fait énormément de sens, je sais que c'est un anglicisme, là, mais c'est raisonnable. C'est raisonnable cette manière-là de voir le monde. Maintenant, dans leur cœur, ils vivent cette espèce de contradiction où ils disent, mais j'en veux pas. Mais j'en veux pas. T'en veux pas parce que t'es pas raisonnable. T'es pas raisonnable parce que dans tes veines, dans ton âme, dans ton cœur, coule le péché d'Adam qui dit « Je serai pas seulement l'imitation de Dieu, je serai pas seulement un imitateur de Dieu, je vais être calife à la place du calife. Je vais être Dieu à la place de Dieu. » Mais ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut les amener dans quelque chose qui est raisonnable. Est-ce que ça se peut que l'univers soit plus grand que toi? Puis est-ce que ça se peut, toi qui es assez intelligent pour essayer d'organiser ta vie, cet univers-là qui est hyper organisé, il y a un concepteur derrière ça? Vous avez entendu Elon Musk, là? On vit dans un monde virtuel où ils nous ont dépassés, puis dans le fond, c'est clair qu'il y a un designer qui est derrière ça. Selon lui, l'hypothèse la plus probable, c'est ça, c'est qu'on vit dans un monde virtuel. On est nous-mêmes des êtres virtuels derrière un concepteur. C'est vraiment fascinant de voir comment ces sujets-là reviennent. Mais c'est ça que je veux leur dire, dans le fond. Est-ce que vraiment tu es le centre de l'univers? Tu sens-tu vraiment que tu contrôles tout? Non, tu essaies de contrôler ta vie avec intelligence. Regarde l'intelligence de l'univers. Il y a quelqu'un de plus grand. Puis ton bonheur à toi se trouve à dire, mon axe de gravitation, il est vers lui, il n'est pas vers moi. C'est là que les choses tombent à leur place. Encore une des idées de John Piper. C'est vraiment lorsque Dieu est au centre de mon système solaire, que c'est lui mon soleil, que toutes les autres planètes de ma vie, l'argent, la sexualité, l'amour, les relations, le travail, ces choses-là vont graviter comme il faut si lui est au centre. D'accord? Mais si une de ces choses-là, qui est dans le fond l'expression de moi, là, mon travail c'est ma carrière, c'est moi, la sexualité c'est mon plaisir, c'est moi, l'argent c'est ce besoin pour moi d'assouvir, bien tout ça c'est l'exaltation de moi, le système ne fonctionne pas. Et j'ai besoin de comprendre ça quand je m'en vais annoncer l'Évangile aux nations. Je m'en vais vers un monde qui n'est pas raisonnable, je leur présente quelque chose qui est parfaitement raisonnable, et il va avoir ce conflit intérieur-là en eux. On sait que la conversion, c'est un miracle. Et donc, on ne sera jamais l'égal de Dieu. Je vais à la page suivante. C'est quand nous trouvons notre plus grande satisfaction en lui, dans ce cas-là, que Dieu est glorifié en nous. Voici probablement la citation la plus connue de John Piper. Puis je viens de la mentionner. C'est quand nous trouvons notre plus grande satisfaction en lui, que Dieu est le plus glorifié en nous. Je parlais encore avec quelqu'un cette semaine, un chrétien, puis il y a quelque chose comme qui clochait dans tout ça. Puis si je poussais la chansonnette un petit peu plus loin, puis que je disais « Dieu est passionné plus que toute autre chose par sa propre gloire et par son nom. » Oh là, la personne a décroché. Là. Elle a dit « Je ne suis pas sûr que c'est vrai, ça. » Mais les Écritures vont dans ce sens-là au complet. C'est Dieu qui a inspiré tous les textes qui nous disent d'adorer Dieu. Comprenez, c'est comme si c'était moi qui chantais toutes mes louanges. Mais c'est ça, là. Littéralement, c'est ça, là. Tu sais, qu'un autre te loue et non ta bouche, c'est pas vrai dans le cas de Dieu. Parce que s'il loue quelqu'un d'autre que Dieu, il pue Dieu, il fait ailer. Il n'est pas intelligent. Et donc, c'est quand nous trouvons notre plus grande satisfaction en Dieu, qu'il est alors le plus glorifié en nous. Et c'est pour ça qu'on dit que la mission, c'est quoi? C'est l'adoration, c'est conduire dans l'adoration. La mission est nécessaire juste pour conduire les gens dans l'adoration. L'exaltation de Dieu, par Dieu de sa propre gloire, en route vers la satisfaction de l'homme. Et donc, l'idée, c'est que, est-ce que ça se peut que dans cette gloire-là de Dieu, dans l'exaltation de sa personne, Dieu soit vraiment en train de chercher notre plus grand bonheur? Dieu soit en train de chercher ce qu'il y a de meilleur pour nous? C'est C.S. Lewis qui disait, la faute de l'homme, c'est pas de ne pas chercher le bonheur. C'est de se satisfaire de jouer dans des petites mares de boue, alors qu'il y a l'océan qui est devant lui. Et c'est ça, Dieu veut nous conduire vers un plus grand bonheur qui est dans sa personne à lui. Donc Piper dit « Ainsi que ce soit pour nous ou pour Dieu, faire preuve d'amour, c'est toujours exalter Dieu. » Que moi je suis en train d'exalter Dieu, je suis en train de faire preuve d'amour. Que je suis en train d'exalter Dieu devant celui qui ne connaît pas Dieu, je suis en train de faire preuve d'amour envers Dieu puis envers cette personne-là. Lorsque je cherche à conduire cette personne-là à exalter Dieu, je suis en train de faire preuve d'amour envers Dieu, envers cette personne-là. Je suis même en train de chercher mon propre bonheur. D'accord? Parce que c'est là que se trouve le vrai bonheur. Il n'y a rien d'autre qui est comparable à Dieu. Il y a des plaisirs inférieurs qui existent. Vous m'avez déjà entendu dire à plusieurs reprises, parce que je crois que c'est vraiment central dans les Écritures, si Dieu cherche à manifester sa gloire, la manière par excellence dont il a manifesté sa gloire, c'est en manifestant sa miséricorde. Un des secrets pour vous réconcilier avec l'histoire de l'humanité, puis avec toute la grande question qui dit « Ouais, mais pourquoi Dieu Pourquoi Dieu a créé l'univers en sachant que... Puis pourquoi Dieu a créé l'homme en sachant que l'homme allait pécher, puis que donc il allait y avoir des hommes qui allaient rejeter Dieu, puis donc il allait y avoir des gens qui iraient en enfer, puis pourquoi Dieu a créé Satan en sachant que Satan allait faire le mal, il allait se rebeller, il avait juste à pas le créer. La vérité, c'est qu'une fois que Dieu a créé tout l'univers, tant que Christ n'est pas venu mourir pour les hommes, Dieu n'est pas magnifié au summum de sa gloire. La vérité, c'est que ce qu'il y a de plus beau et de plus extraordinaire dans la personne de Dieu, c'est non pas qu'il ait créé toute chose, c'est non pas qu'il soit saint et amour, c'est qu'il soit miséricordieux. Et donc, Christ est au centre de la gloire de Dieu. Et ça, c'est une clé pour nous aider, nous, à nous réconcilier avec la gloire de Dieu, puis pour aider les hommes à se réconcilier avec la gloire de Dieu. Lorsqu'on va dans l'Apocalypse, on trouve l'agneau assis avec Dieu sur le trône de Dieu. Et c'est la figure qui est évidente, c'est la figure visible de Dieu, c'est l'agneau. Parce que dans l'œuvre de Christ, Dieu est plus glorifié, plus magnifié qu'en quoi que ce soit d'autre qu'il a créé. Et donc Dieu exalte la manifestation de sa miséricorde. Dans Romains 15, 8 et 9, on lit « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai la gloire de ton nom. » Donc il y a deux choses dans ça. Prouver que Dieu est fidèle à ses promesses, prouver que Dieu honore ses promesses. Et deuxièmement, afin que les nations, les païens glorifient Dieu à cause de sa bonté ou à cause de sa miséricorde, selon votre traduction. Donc le but, pourquoi est-ce que Christ est venu comme serviteur, prouver la fidélité de Dieu, accomplir les promesses de Dieu, et troisièmement, afin que les nations puissent rendre gloire à Dieu en raison de sa bonté et de sa miséricorde. Quand je regarde le sketch complet de l'histoire de l'humanité à partir de la création, de la chute, de la rédemption, et puis de l'exaltation du retour de Christ, la glorification, c'est cette histoire-là que je suis en train de regarder. À travers toutes les souffrances, tous les moments glorieux de l'histoire de l'humanité, c'est ça que je suis en train de regarder et j'ai une toile devant moi. Hier, je suis allé au Musée des Beaux-Arts avec mon père, on est allé voir les expositions de la peinture canadienne. Puis je m'arrêtais devant des tableaux, puis pour moi, c'est ça. Quand je regarde les Écritures, quand je me promène dans les Écritures, j'ai toujours une grande toile. J'ai toujours une toile. D'un couvert à l'autre, j'ai toujours une seule scène. Cette scène-là, c'est une scène qui est à la gloire de Dieu, où il y a des ondes d'ombre, puis il y a le péché, puis il y a la souffrance, puis il y a le mal. Mais au cœur de cette toile-là, là où notre attention est complètement attirée, c'est à ce moment-là où Christ vient et tout pointe dans cette direction-là. Tout s'en va vers ça. Tout ce qu'il y a autour, tout le reste sert une seule chose, venir magnifier la personne de Dieu à travers l'œuvre de sa grâce en Jésus-Christ. Tout pointe vers ça. Tournez à la page suivante, à la page 5. La mission a pour moteur un esprit de service et un cœur miséricordieux. Si on se tourne vers Christ un petit peu, pour voir comment est-ce que lui vient servir la gloire de Dieu. Le glorieux Fils de Dieu est venu sous la forme d'un serviteur, poussé par sa compassion pour les hommes qui étaient perdus et damnés sans lui. Ainsi, non seulement Jésus est venu pour glorifier son Père. Vous savez, Jésus disait constamment, « Je fais la volonté de mon Père, je glorifie mon Père. » Toujours. Mais il allait le faire de manière parfaite et absolue, en étant un serviteur de compassion, en mourant sur la croix pour le salut des hommes. C'est lorsque Christ manifeste la compassion de Dieu à la croix qu'il glorifie le plus son Père. C'est le moment crucial où il va glorifier son Père plus que toute autre chose. Et donc, la miséricorde de Dieu est au cœur de la gloire de Dieu puis est au cœur de la mission. Lorsqu'on va annoncer l'Évangile aux gens, on veut les conduire à cet endroit-là, leur premier réflexe, ça va être quoi? Ça va être de dire, « OK, je comprends, je suis un pécheur, il y a un Dieu qui va juger un jour, puis il m'offre sa miséricorde grâce à l'Évangile. Donc, dans mon intérêt, j'accepte la grâce. » Mais ce n'est pas là qu'on veut les conduire. Ça, c'est le premier pas. Dans mon intérêt, je veux être sauvé. Mais si, à travers le processus, ils ne deviennent pas des adorateurs de Dieu, ça ne fonctionnera pas leur vie chrétienne. Ça ne marchera pas. Ils entrent dans la vie chrétienne dans une attitude de « Ah, Dieu m'a tellement aimé qu'il me devait le salut. Dieu doit le salut aux hommes. Dieu doit le salut à l'humanité. » Puis c'est, j'étais en train de me préparer pour le message de ce matin, puis c'est très ironique parce qu'on vit dans une culture post-chrétienne. Okay? Avant le christianisme, Dieu était toujours dans la perspective des hommes. Dieu, puis vous regardez dans les religions sur la terre, Dieu est un être très, très loin de nous. Ce n'est pas un être qui est près de nous. Bon, il peut être partout, dans la matière, tout ça, mais il est distant de nous. Il n'est pas comme nous, il n'est pas nous. Il est très, très loin de nous. Le christianisme se répand dans l'Empire romain, laisse son empreinte sur l'Europe, sur l'Occident, tout ça. Et à travers ça, le christianisme contribue à l'humanisme. Une des manières que le christianisme a contribué à l'humanisme, c'est en disant que tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Hommes, femmes, blancs, noirs, libres et esclaves, tout le monde sont créés à l'image de Dieu. Et donc ça a contribué à cette liberté-là, d'accord? Puis on le voit, à l'origine de l'humanisme, c'est très, très clair que c'est présent. Maintenant, la course continue. Et aujourd'hui, la pensée par rapport à Dieu, c'est « si Dieu existe, Dieu me doit ». C'est lui qui a, excusez, je vais être vulgaire, là, c'est lui qui a mis le bordel partout. Il n'y avait juste à pas créer la terre comme ça. C'est lui qui a mis le bordel partout. Dieu nous doit de réparer. Dieu nous doit de nous sauver. Dieu nous doit de prendre soin de nous. Avant le christianisme, cette idée-là est complètement flyée. Dieu, les dieux nous doivent leur colère. Les dieux nous doivent quoi? Ils nous doivent les jugements. Les dieux sont terribles. Les dieux sont loin de nous. Les dieux sont effrayants, c'est le monde inconnu. Mais Christ est venu, Dieu n'est plus inconnu, il s'est fait connaître à nous. Il a été compassion, il a été tendresse, il a été douceur. Et qu'est-ce que l'Occident retient de l'idée de Dieu? C'est, ben maintenant c'est moi qui est au centre. Dieu est venu me servir, il a bien fait, c'est moi qui est au centre de l'univers. S'il veut que je le s'il veut être réadmissible dans ma pensée, il faut qu'il soit Dieu mon serviteur. Et là, ça va être une vision admissible de Dieu. Est-ce que vous voyez l'ironie? Et donc, lorsque je m'en vais parler à des gens de Dieu, je fais face à ces obstacles-là. Je dois les aider à voir la folie de croire qu'ils sont au centre de l'univers, pour les ramener vers un Dieu qui est plus loin, plus grand, tellement plus loin, tellement plus grand qu'eux, pour qu'ils redécouvrent la grâce qu'il y a d'un Christ qui vient construire le pont entre nous et eux. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis? Ça, c'est un défi énorme. Parce que maintenant, pour eux, Dieu est ici, dans leur poche, c'est un guichet automatique, c'est une petite prière, c'est un chapelet, c'est comme ça, Dieu, puis il me le doit, puis regarde, le monde, c'est n'importe quoi, ils sont tous fâchés après Dieu. En Occident, ils sont fâchés après Dieu. Ailleurs, ils craignent Dieu, ils ne sont pas fâchés. En Occident, ils sont fâchés après Dieu. Le christianisme est passé, Christ est notre serviteur. Il nous doit tout, c'est évident. Et nous, on vient, puis on leur dit, non, Dieu n'est pas si près que ça de toi que tu penses. Heureusement, il ne te ressemble pas tant que ça. Heureusement. Parce que tu vois ce qu'on a fait, là? Heureusement, il ne te ressemble pas à ce point-là, mon ami. C'est pas ça qu'on veut dire lorsqu'on parle de l'image de Dieu. Puis il faut que je réintroduise cette distance-là pour qu'après, ils puissent chercher leur bonheur en Dieu lui-même. Je vais devoir m'arrêter ici. Mais c'est le chapitre le plus qui a le plus de matière, d'accord? Alors, on va le compléter la semaine prochaine. C'est important pour moi que ces concepts-là vous soient familiers. C'est important pour qu'on grandisse comme Église, d'accord? C'est important si votre expérience d'annoncer l'Évangile puis votre relation avec la communauté, avec les non-chrétiens à l'extérieur de l'Église doit changer. Ces concepts-là doivent devenir limpides. Ils doivent être au cœur de votre vision de la mission. Alors, prenez le temps de relire le chapitre. Si dans tout ce que je vous dis, vous dites, il y a tel point, Yannick, tu passes ton temps à dire ça, je comprends pas, ça marche pas, envoyez-moi un courriel, ça va me faire plaisir de le développer, d'accord? On va terminer avec un mot de prière. Mais Père éternel, on veut te remercier pour ta parole, Seigneur, qui est raisonnable, qui est tellement plus raisonnable que l'idée de dire que l'homme est au contrôle de sa destinée. On n'est pas au contrôle de grand-chose, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et merci pour cette grâce que tu nous as accordée C'est vraiment un miracle de ton esprit de réaliser que nous ne sommes pas au centre. C'est toi, Seigneur. Enseigne-nous, montre-nous, Seigneur, comment, premièrement, grandir comme adorateur garder à l'esprit que tu n'es pas mon chumé. Tu n'es pas mon pote, même si tu es mon ami, Seigneur Jésus. Et de réaliser que tu es grand, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es magnifique, Seigneur. Et qu'on puisse premièrement, nous, être vraiment des adorateurs complètement stupéfaits par le fait que tu as couvert la distance et que tu es venu près de nous, alors que tu es tellement autre que nous, tellement grand et saint, Seigneur. Aide-nous à nous réconcilier avec cette idée que l'exaltation de ta gloire chez toi, Seigneur, c'est la plus grande des vertus. Ce n'est que pure logique que tu exaltes ce qu'il y a de plus magnifique dans l'univers et on va le chanter ensemble ce matin, Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses, à les porter en nous. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, cette année en 2017, de conduire des gens qui sont centrés sur leurs problèmes, sur leur vie, sur leurs défis, à devenir des adorateurs de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, on te prie pour la ville de Longueuil, on te prie pour la Montérégie, Seigneur. Tu nous as placés ici, on te prie pour Rivière-du-Loup, Seigneur. On te prie pour nos missionnaires qui sont là-bas. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, de voir des gens de toutes les nations de la terre venir adorer avec nous Jésus-Christ, venir adorer avec nous Dieu le Père, venir adorer avec nous l'Esprit-Saint. C'est en son nom que nous prions. Amen. Amen. Merci.